Bonsoir à tous. Nous serons au Royaume-Uni dès le début de ce journal. Le pays compte plus de 10 000 morts du coronavirus ce soir, mais il vaincra, a lancé Boris Johnson tout à l'heure à sa sortie de l'hôpital. Le Premier ministre lui-même infecté et qui affirme que tout aurait pu basculer pour lui.
Le pape continue ses célébrations, Alexandra, en Mondovision.
Oui, et surtout en ce week-end de Pâques, la messe et la bénédiction Urbi et Orbi ont été retransmises en direct tout à l'heure. Le pape encourage les responsables politiques à travailler en faveur du bien commun, vous l'entendrez. Dans ce journal, la colère du maire de Groix après l'arrivée de 5 touristes hier sur son île. Et puis, retour sur la mort d'une légende du sport automobile aujourd'hui, Stirling Moss, 90 ans. Il était surnommé le champion sans couronne.
France Inter.
Le Premier ministre britannique est donc sorti de l'hôpital en début d'après-midi. Boris Johnson, 55 ans, avait été testé positif au coronavirus il y a 17 jours maintenant. On sait qu'il est passé par un service de réanimation. On file à Londres tout de suite retrouver Valérie Crova, envoyée spéciale de France Inter au Royaume-Uni. Valérie, on l'imagine donc ce soir sur place, les Britanniques doivent être soulagés.
Oui, en effet, même si les nouvelles étaient rassurantes depuis quelques jours, les communiqués parlaient d'une amélioration de son état de santé. Eh bien, Boris Johnson a donc quitté l'hôpital Saint-Charles en début d'après-midi par une météo estivale. Il a sûrement vu les nombreux promeneurs qui étaient sortis pour profiter de cette belle journée. Le Premier ministre va désormais se reposer dans sa résidence de Chequers, située au nord-ouest de Londres. Il ne doit pas reprendre le travail dans l'immédiat sur les conseils de son équipe médicale, mais à peine était-il sorti de l'hôpital qu'il a enregistré une vidéo dans laquelle il a tenu à remercier chaudement le personnel qu'il a soigné et notamment les infirmières qui sont restées à ses côtés quand tout aurait pu basculer, a-t-il dit, les yeux brillants de fatigue. Boris Johnson a lancé ce message. Nous vaincrons le coronavirus et nous le vaincrons ensemble, à l'adresse de ses concitoyens.
Un soulagement donc pour le Premier ministre qui n'était pas en réanimation mais en soins intensifs. Mais le pays, lui, s'enfonce toujours un peu plus dans la crise. Il vient de passer, Valérie, la barre des 10 000 morts.
Oui, c'est un bilan très lourd qui ne prend pas en compte les morts dans les maisons de retraite. Aujourd'hui, le Royaume-Uni est le pays d'Europe où l'on meurt le plus du Covid-19. Dominic Raab, qui remplace Boris Johnson à la tête du gouvernement, le temps qu'il se rétablisse, doit se prononcer dans les jours qui viennent sur une éventuelle prolongation du confinement. Cette hypothèse est très probable car le pic de l'épidémie ne serait toujours pas atteint ici, alors que les Britanniques prennent quelques libertés, comme on l'a vu depuis le début du week-end pascal. Et puis l'autre inconnu, Alexandra, concerne la durée de la convalescence de Boris Johnson. Est-ce que ce sera plusieurs jours ou plusieurs semaines ? Personne n'est capable de le dire pour le moment.
Merci Valérie Crova, envoyée spéciale à Londres avec les moyens techniques de Jean-André Giannichini. Le Royaume-Uni qui forme avec la France et l'Italie et l'Espagne le principal foyer du virus en Europe. 75 000 morts au total sur le vieux continent. En France, on s'approche des 14 000 décès. Un nouveau bilan sera annoncé ce soir et le pays est suspendu aux annonces d'Emmanuel Macron. Demain soir à 20h02, le chef de l'État envisagerait une prolongation du confinement jusqu'au mois après le 10 mai, selon plusieurs sources aux médias. L'Espagne aussi prépare l'après-crise. Le pays compte 17 000 morts. La distanciation sociale restera en vigueur, même à la plage cet été, prévient aujourd'hui la ministre espagnole du tourisme. Le tourisme qui pèse environ 12% dans le PIB espagnol, mais depuis plusieurs semaines, les plages et les frontières sont fermées. Et puis l'administration Trump, elle, imagine un assouplissement du confinement pour le 1er mai. Le pays est le plus touché au monde avec plus de 20 000 morts. Le monde s'enfonce donc dans la crise. Alors forcément, ce dimanche de Pâques a été en partie consacré à ce coronavirus lors des messes retransmises un peu partout à travers le monde et surtout lors de la bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde du pape François. Tout à l'heure, c'était dans une basilique Saint-Pierre de Rome vide de fidèles.
Au cours de ces semaines, la vie de millions de personnes a changé à l'improviste. Pour beaucoup, rester à la maison a été une occasion pour réfléchir, pour arrêter les rythmes frénétiques de la vie, pour être avec ses proches et jouir de leur compagnie. Pour beaucoup, cependant, c'est aussi un temps de préoccupation pour l'avenir qui se présente incertain, pour le travail que l'on risque de perdre et pour les autres conséquences que la crise actuelle porte avec elle. J'encourage tous ceux qui ont des responsabilités politiques à s'employer activement en faveur du bien commun des citoyens, fournissant les moyens et les instruments nécessaires pour permettre à tous de mener une vie digne et pour favoriser, quand les circonstances le permettront, la reprise des activités quotidiennes habituelles.
Le pape François ce matin dans la basilique Saint-Pierre, traduction avec Bruce de Galzin.
Et ce dimanche de Pâques, Alexandra Dubucheron, des œufs et des enfants confinés.
Oui, c'est la règle. Les soignants et les autorités nous demandent encore de rester à la maison. Les contrôles sont renforcés sur les routes et sur le littoral. Et on se surveille de près. On s'observe même à Groix, dans le Morbihan, par exemple. Le maire assure avoir vu des Franciliens débarquer sur son île hier. Dominique Yvon avait pourtant pris un arrêté municipal réservant l'exclusivité des traversées aux résidents et aux travailleurs de l'île de Groix.
Je vais très souvent à l'arrivée des bateaux. Et surtout, là, c'était le week-end de Pâques, donc on craignait que certaines personnes viennent. Il y a 5 personnes qui étaient avec des valises. Ils viennent de la région parisienne et c'est quand même un des endroits où il y a le plus de cas de coronavirus. Donc ça nous contrarie, quoi. On est dans un milieu un peu confiné sur une île. Effectivement, quand on reçoit des gens qui viennent de l'extérieur, on ne sait pas ce qui peut arriver, quoi. Je comprends, il fait beau, mais c'est super de venir à Groix. Mais bon, il faut aussi suivre les prescriptions qui sont données par le gouvernement et par les arrêtés du préfet et du maire, quoi. J'ai l'intention de saisir le préfet mardi ou le sous-préfet pour voir ce qu'il en est. Parce que s'il y a des arrêtés qui ne sont pas appliqués, c'est peut-être pas la peine d'en prendre.
Le maire de l'île de Groix, Dominique Yvon, avec Adeline Divou de France Bleu Brésisel, il envisage aussi de porter plainte contre la compagnie maritime. Et puis avec les œufs au chocolat, l'agneau de France a semblé être particulièrement plébiscité cette année, si l'on en croit le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui salue les bouchers de quartier et la grande distribution, alors que les éleveurs dénonçaient la concurrence déloyale du mouton néo-zélandais. Didier Guillaume qui appelle aussi les maires et les préfets à rouvrir les marchés alimentaires si les mesures de sécurité sanitaire sont respectées, dit-il. On y reviendra dans le journal de 19h. Le porte-avions Charles de Gaulle vient d'accoster à Toulon avec la frégate qui l'accompagnait. Leurs missions ont été écourtées après 50 cas de contamination à bord. Les 1900 marins de ces deux bâtiments sont placés en quatorzaine et tous testés. Une cinquantaine de migrants du plus grand centre de rétention administratif français au Ménil-Amelot en Seine-et-Marne dénoncent les mauvaises conditions sanitaires pendant cette crise du coronavirus. Il n'y a ni masque ni gel, disent-ils dans un communiqué. Ils réclament donc leur libération et dorment en signe de protestation dans la cour du bâtiment. Je le disais dans les titres, la disparition d'une véritable légende du sport automobile des années 50. Le pilote britannique Stirling Moss est mort aujourd'hui à 90 ans. Victorieux en 1956 sur les 24 heures du Mans. En 1955 sur le Mille Miglia avec Mercedes, il a surtout marqué l'histoire de son sport avec ses victoires en Formule 1. Même si il n'a jamais remporté le championnat du monde, il est toujours arrivé deuxième. On l'avait d'ailleurs surnommé le champion sans couronne, comme le rappelle Stéphane Barbet, spécialiste de la F1 au journal L'Équipe.
S'il n'a jamais été champion du monde, c'était quand même sur des écarts très faibles. Lui, il a quand même gagné 16 Grands Prix de Formule 1. Il est resté en vie, surtout. Quelque chose de particulièrement important à l'époque. C'était Sir Stirling Moss. Il a été anobli par la reine, comme l'a été Jackie Stewart. Il n'y a que Jackie Stewart qui l'appelait Stirling parce que voilà, ils étaient d'égal à égal. Mais tous les pilotes anglais l'appelaient Sir Stirling. À l'époque de 1955, avec ses fameuses Mercedes, qu'on appelait déjà les flèches d'argent, il a fait toute cette année-là derrière Fangio, sauf une fois. Il est le premier pilote anglais à gagner le Grand Prix d'Angleterre de Formule 1 en 1955. La grande question à laquelle lui-même n'a jamais pu répondre, c'est est-ce que Fangio, cette année-là, l'a laissé gagner ? Tout ça, ça fait partie de la légende et on le croisait encore très régulièrement dans le paddock du Grand Prix d'Angleterre où il ne pouvait pas faire 3 pas sans être obligé de s'arrêter. En Grande-Bretagne, il est aussi célèbre que les plus grands sportifs britanniques de son époque.
Le journaliste Stéphane Barbet, auteur notamment de 1000 Grands Prix, 70 ans de Formule 1 chez Solar. Il a été joint par Jean-Pierre Blimeau pour France Inter.
Et c'était le journal d'Alexandra Dubucheron.